Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous entrons aujourd'hui plus avant dans les confessions, mais pas seulement dans les confessions, puisque je ferai aussi quelques références à d'autres ouvrages de saint Augustin. Saint Augustin est un des auteurs les plus importants qui a découvert un grand nombre de thèmes que nous effleurerons un peu cette année, qui ont une grande prospérité, une grande destination dans l'histoire de la philosophie occidentale, l'histoire de la pensée en Europe et dans le monde. Le thème aujourd'hui sera le thème de la première personne du singulier, le « je ». Je commence d'abord par noter qu'en latin, il n'est pas nécessaire de dire « je ». Si je dis « sum » en latin, je traduirai en français par « je suis ». Cela veut dire alors que si un auteur en latin écrit « ego sum », il ne faut pas traduire par « je suis », mais il faut bien traduire le « ego », il faut traduire donc alors par « moi je suis » ou « c'est moi qui suis ». En lisant attentivement le latin d'Augustin, nous nous apercevons qu'Augustin, à plusieurs reprises, emploie ce petit mot qui n'est pas grammaticalement nécessaire, « ego » en latin, « moi » ou « je » plutôt en première personne. C'est là une des grandes découvertes encore d'Augustin, la découverte de ce que les philosophes appellent l'égoïté, la découverte de la subjectivité, comme on dira beaucoup plus tard en Allemagne, la découverte de la première personne, donc la découverte de la personnalité et de la première personne. Ça, c'est le premier point. L'autre point important, c'est la relation d'un je avec un autre je. Si nous regardons la venue au monde d'un être humain, nous voyons qu'il ne vient pas au monde dans une machine, comme le rêve le transhumanisme aujourd'hui, mais qu'il vient au monde dans le sein d'une mère, dans le sein de sa mère, d'une femme, et qu'il vient au monde sur le mode d'une relation d'une personne avec une autre personne. Or, c'est là le fil conducteur principal des confessions d'Augustin. Augustin parle en première personne et s'adresse à un Dieu qu'il tutoie et auquel il parle en deuxième personne. Moi, face à toi, je, en relation avec tu. Cela veut dire alors que si Augustin écrit précisément ce petit mot inapparent « ego », il faut le prendre au sérieux. Il faut le traduire. J'observe au passage que nombreux sont les traducteurs qui n'ont pas traduit cet « ego » pensant que c'était superflu et ils ont simplement traduit par exemple par « je suis ». Or, si Augustin l'emploie, c'est à dessein. Et il faut le méditer. Je note au passage, j'évacue au passage une erreur possible. Ce n'est pas du tout par narcissisme, comme on dira vulgairement aujourd'hui, ou par égocentrisme qu'Augustin emploie le mot « ego », mais bien au contraire parce qu'il découvre que l'homme est celui qui est capable de dire « je ». Nous comprenons cela à quelques citations importantes que fait Augustin dans son œuvre, et notamment dans les Confessions, et en faisant référence au livre de l'Exode dans la Bible hébraïque. Nous nous rappelons qu'en Exode 3,14 et dans les versets suivants, Dieu se présente à Moïse qui lui demande son nom, au nom de qui il sera envoyé vers les Hébreux esclaves en Égypte. Et vous rappelez que nous nous rappelons que Dieu se révèle, et en latin, parce qu'Augustin est un auteur latin, la traduction latine dit « ego sum qui sum ». Si nous traduisons littéralement, nous traduirons par « moi, je suis qui je suis ». Voilà donc Augustin qui médite le nom de Dieu et le nom de Dieu pour l'éternité, ce que dit le livre de l'Exode, c'est le nom de Dieu pour l'éternité, c'est « moi, je suis qui je suis ». Dieu est donc celui qui parle en première personne. Dans la tradition juive, d'ailleurs, on remarque, on souligne le fait que dans ce dialogue entre Dieu et Moïse, Dieu apprend à Moïse à parler en première personne. Il ne va pas de soi pour un homme de parler en première personne. Nous noterons que la plupart du temps, nous parlons en troisième personne de manière neutre et impersonnelle. On va à la chasse, on va au lycée, on va au travail, on. On, c'est n'importe qui, c'est tout le monde, mais ce n'est pas une véritable personne incarnée, singulière. Moïse donc apprend de Dieu à parler en première personne responsable d'elle-même et à se tenir en relation avec Dieu et à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est bien, je crois, ce que fait ici Augustin dans les Confessions. C'est donc pas par hasard qu'il emploie ce petit mot inapparent « moi »,« ego », mais c'est bien à dessein, intentionnel, parce qu'il veut méditer et nous faire découvrir ce que signifie pour l'homme le pouvoir de dire « je ». Premier point, nous l'avons vu, Dieu parle en première personne en disant « moi, je suis qui je suis ». Ce qui est d'ailleurs, on le soulignera au passage, une formule tout à fait énigmatique qui nous laisse sur notre désir de mieux connaître celui qui dit « moi, je suis ou qui je serai ». Il faut relier cette parole célèbre à une autre parole non moins célèbre dans la Bible toujours, au livre de la Genèse, celle qui nous dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là encore, Augustin fait explicitement référence à cette célèbre parole. Et si nous mettons en relation les deux, cela veut dire que l'homme, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, est capable à son tour de dire « ego sum »,« moi, je suis ». Il faut donc alors penser ce que cela signifie pour l'homme que de dire « moi, je suis » et penser la différence qu'il y a entre Dieu qui dit « moi, je suis qui je suis » et l'homme qui dit « moi, je suis ». Cette formule, en fait, est là encore presque inapparente. Elle apparaît au livre 1 des Confessions, dans le fameux prélude, au livre 1, chapitre 2, paragraphe 2. Augustin invoque Dieu, c'est-à-dire appelle Dieu à venir demeurer, habiter en lui, Augustin, et il note que Dieu est, et que Dieu est présent à toute chose, mais en passant, semble-t-il, il dit « alors, puisque moi aussi je suis », etc. Et c'est ce « moi aussi je suis » qui m'a interrogé, il y a longtemps déjà, en latin c'est « et ego sum ». Ce n'est pas du tout insignifiant, parce que cela veut dire que de même que Dieu est celui qui dit « moi, je suis », l'homme est celui qui peut dire « moi aussi, je suis ». Et ego sum. Et donc le nom divin, en un sens, fait bel et bien sens pour l'homme aussi. Moi aussi, je peux dire en un sens, en première personne, « je suis ». Le « je suis » de l'homme, évidemment, n'est pas le « je suis divin », il n'est pas le « je suis » du Créateur, de l'Éternel, il est le « je suis » de quelqu'un qui se reçoit de Dieu et qui, se recevant de Dieu, peut se tenir devant Dieu comme un « je », J-E, et parler à Dieu en lui disant « tu ». Nous voyons donc bien ici une relation fondamentale qui est instituée par Augustin ou qui est méditée par Augustin. Dieu, le premier, est celui qui dit « moi, je suis qui je suis ». Ce Dieu a créé un être à son image et à sa ressemblance qui est capable à son tour de dire « moi aussi, je suis, c'est-à-dire moi à ma manière, d'être fini et mortel, touché par l'angoisse, touché aussi par son péché, ou l'angoisse de son péché, et en même temps touché par la grâce, touché par l'amour de Dieu, moi aussi, je suis. » Nous voyons donc ici la relation entre les deux qui est tout à fait importante et qui donne le fil conducteur des confessions. Nous avons bien affaire à Augustin qui se tient devant son Dieu, ce Dieu auquel il parle en disant « ma douceur, ma sainte douceur », et qui parle en disant « je », et qui s'éclaircit devant le « je » divin. À partir de là, nous entrons dans quelque chose d'assez difficile. C'est que la question devient « qu'est-ce que cela veut dire pour moi quand je dis « je » ?» Vous remarquerez que dans la vie quotidienne, le petit mot « je » en langue française, nous l'employons tout le temps, puisque la grammaire française nous demande tout le temps d'employer le pronom personnel « je ». Je suis heureux, je suis un être humain, je suis pauvre, je suis riche, que sais-je. Nous avons noté qu'en latin, ce n'est pas nécessaire. Mais cela veut donc dire que si Augustin l'emploie, je l'ai dit, c'est à dessein. Mais cela veut dire aussi que ce petit mot que nous employons, parce que la langue française nous le demande, il nous faut maintenant non plus l'employer paresseusement, mais nous demander ce qu'il signifie. Et là, nous entrons bien en philosophie. Et cette petite phrase d'Augustin « et ego sum » est d'une grande profondeur, en même temps aura une immense postérité, puisqu'elle ressurgira, par exemple chez Montaigne, par exemple chez Descartes. Dans la deuxième méditation métaphysique de René Descartes, nous retrouverons à la lettre la même formule « ego sum, ego existo »,« moi, je suis, moi, j'existe ». Donc voyez ici que c'est la première parole est bien la parole de Dieu à propos de Dieu, « moi, je suis qui je suis », mais cette parole permet une parole humaine, sous la forme de l'image et de la ressemblance, la parole humaine d'un homme qui peut, à son tour et à sa manière, dire « moi, je suis ». Nous venons d'écouter un des plus vieux chants chrétiens connus, qui a été restitué par Marcel Pérez avec son ensemble Organum. C'est le chant de Lise de Milan, qui est né sous l'impulsion de l'évêque de Milan, saint Ambroise.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous le voyons, Augustin inaugure une immense tradition, celle de la première personne du singulier, et plus précisément celle de la première personne en relation avec l'autre, le « je » et le « tu » que nous retrouverons tout au long de l'histoire de la philosophie. Je pense aussi à Martin Buber, au XXe siècle par exemple. Alors, ce petit mot que nous employons tous les jours, « je »,« moi », »,« toi »,« tu », ces petits mots nous sont familiers et comme tels, ils nous sont inconnus. Le plus familier et le moins connu. Ce qui veut dire que nous ne prêtons pas attention et nous avons simplement à disposition, à portée de la main, la langue, avec la grammaire usuelle, et nous savons quand est-ce qu'il faut dire « je », quand est-ce qu'il faut dire « tu », etc. La méditation d'Augustin dans les confessions consistera rigoureusement à autre chose et à s'interroger sur ce petit mot. Et c'est bien pourquoi c'est à dessein qu'il emploie dans des moments décisifs ce petit mot. Il découvre ainsi une question tout à fait originale, une question qu'il est le premier, je crois, à poser, qui est la question « moi, qui suis-je ?». Cette question, nous ne la rencontrons pas telle qu'elle auparavant. Nous avons bien, par exemple, chez Socrate, une découverte de la question « qu'est-ce que l'homme ?». Mais c'est une question universelle, une question impersonnelle. Qu'est-ce que l'homme ? Mais on pourrait aussi bien demander « qu'est-ce qu'un dieu ? Qu'est-ce qu'un animal ?», etc. Nous avons aussi ensuite, chez d'autres auteurs, une première méditation sur l'âme, sur la conscience humaine, ce qu'on appellera plus tard la conscience humaine, mais il y a quelque chose de propre à Augustin qui est la découverte de la question en première personne. Ce n'est pas « qu'est-ce que l'homme en général ?» ou « qui suis-je moi ?» en général, mais « moi, dans ma singularité, qui suis-je ?» Et donc, c'est bien une question unique, pour un unique. C'est saint Augustin qui se demande qui il est, et il ne peut se le demander qu'en première personne. Nous avons donc là aussi un écho d'une formule célèbre de Socrate, « Gnotis et Auton, connais-toi toi-même », mais nous voyons que cette question rebondit, parce que la connaissance de soi à laquelle saint Augustin nous appelle est telle qu'il ne suffira pas de dire ce que je suis, à savoir un homme, une âme, etc., mais qu'il me faudra aller jusqu'à connaître le qui je suis, jusqu'à méditer, explorer, ouvrir le qui, le moi, qui suis-je ? Moi qui suis-je dans ma singularité, dans l'histoire unique qui est la mienne, qui est telle qu'aucun autre être humain, ni avant, ni après, ni pendant, n'aura la même destinée. Ce petit mot « moi » est donc bien et bel et bien une énigme. Et nous rencontrons ici une formule qui vient deux fois, ce n'est pas insignifiant, sous la plume d'Augustin au long des confessions. Une première fois au livre 4 et une deuxième fois au livre 10. C'est en français la formule suivante, « J'étais devenu moi-même pour moi une grande question ». La première fois que la formule apparaît, c'est au livre 4. C'est un passage important des confessions. Au livre 4, Augustin fait mémoire d'un événement de sa jeunesse, il a à peu près 16 ans. Son meilleur ami, en quelques jours, meurt d'une maladie soudaine. C'est un des textes les plus beaux que je connaisse sur le deuil, sur le cheminement du deuil, sur l'expérience du deuil et de la mort. Tout le monde peut le lire et le méditer. Nous remarquons que c'est à l'occasion de la remémoration de cette épreuve du deuil, de la mort, qu'Augustin dit « J'étais devenu pour moi une grande question ». Cela veut dire donc que ce n'est pas quand il écrit les confessions qu'il a à peu près 40 ans, qu'il ne comprend plus qui il a été quand il avait 16 ans et qu'il a vécu ce deuil, mais c'est quand il avait 16 ans, quand il a vécu ce deuil, qu'il est devenu pour lui-même une grande question. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que dans la vie quotidienne, il nous arrive une foule d'événements, des malheurs, des bonheurs, et en vérité, ou en fait, nous restons souvent à la surface de nous-mêmes, à la surface des événements, à la surface de nous-mêmes et d'autrui. Augustin, nous voyons ici son génie propre, est quelqu'un qui, tout au contraire, cherche à entrer dans la profondeur de la vie et de l'expérience, et donc de l'épreuve de l'âme humaine. Et quand il a 16 ans et qu'il perd son ami, à ce moment-là, il découvre qu'il ne se comprend plus lui-même. Il pleure, il raconte de quelle manière il pleure, je vous laisse le lire. Il raconte, il a bien compris que tout ce qui auparavant était signe de la joie, signe du fait que l'ami pourra venir et viendra, est devenu soudain un signe qu'il ne viendra plus jamais, puisqu'il est mort. Et il découvre donc la vacuité, il découvre l'absence, et l'absence définitive. Et il se demande d'où vient qu'il éprouve de la douceur à pleurer. Et une fois de plus, c'est quand il a 16 ans qu'il s'interroge et qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, comment il vit cette mort, comment il vit l'absence de cet ami. Et c'est dans cette situation qu'il est devenu, à 16 ans, pour lui-même une grande question. Ce thème revient au livre 10. Au livre 10, Augustin a 40 ans et il nous parle de celui qu'il est maintenant qu'il est un homme mûr, il est évêque à Hippone. C'est un homme connu qui est en relation épistolaire avec de grands esprits partout dans le bassin méditerranéen, dans le monde romain. Et voilà un homme, un évêque, qui a l'humilité de dire publiquement qu'il ne se comprend pas pleinement lui-même. Et que s'il se regarde lui-même, s'il regarde ses rêves, ses désirs, ses espérances, ses craintes, son âme dans toutes ses dimensions, il est pour lui-même une grande question. Voilà, nous avons ici une grande honnêteté intellectuelle, une grande profondeur aussi. Alors, elle signifie philosophiquement que l'âme humaine est obscure à elle-même, que l'âme humaine ne peut pas se saisir elle-même, c'est-à-dire qu'elle est bien appelée à se connaître elle-même, destinée à se connaître elle-même, mais que la connaissance qu'une âme humaine a d'elle-même restera dans cette vie à jamais partielle, quand ce ne sera pas superficiel. Cela veut dire aussi qu'Augustin nous invite à devenir nous-mêmes, pour nous-mêmes, une grande question. N'ayons pas peur de penser, n'ayons pas peur d'entrer dans la question et de devenir nous-mêmes, pour nous-mêmes, une grande question. Sans doute que toutes les personnes qui consultent des psychologues, des psychiatres, des médecins, sont dans cette situation, et Augustin ici les invitera à oser devenir, chacun pour soi, une grande question. Cette grande question, c'est la question énigmatique par excellence pour un être humain. Moi, qui suis-je? Qui est ce moi? Qui suis-je pour moi-même? Qui suis-je pour toi? Et qui suis-je pour Dieu? Comme il l'avait noté dès le début des confessions. Cela veut dire aussi que les confessions présentent l'histoire de l'âme de saint Augustin. Parce que la grande question se décline en fait selon le temps, ou plutôt selon les temps, passé, présent et futur. La première partie des confessions consiste à explorer qui il a été, lui, Augustin. La dernière partie des confessions consiste à explorer qui il est. Donc je le dirai maintenant en première personne. Augustin se demande ceci, « Moi, qui ai-je été ?» Et il mène le récit de sa vie, de sa jeunesse, de ses premiers amours, de ses études, de son désespoir intellectuel. Tout cela, le lecteur pourra le découvrir. Quand il arrive ensuite, à partir du livre 10, à la deuxième grande partie des confessions, il n'explore plus qui il a été, ou non, mais qui il est. Donc la question devient « moi, qui suis-je maintenant ?» Et précisément pour lui, maintenant que je suis chrétien et que je connais mieux ce Dieu qui est ma douceur et en relation avec qui je suis. Nous noterons que la question n'est pas terminée pour autant. Parce qu'il ne suffit pas de faire le récit de l'histoire de mon âme, qui ai-je été. Il ne suffit pas d'explorer qui je suis maintenant, à l'âge qui est le mien, avec la maturité qui est la mienne. Il me faut encore explorer qui je serai. Et là encore, c'est une chose capitale chez saint Augustin. Mais tout se termine par une surprise sur laquelle je reviens dans un instant. Le qui je serai, donc, envisage seulement mon avenir proche ou lointain. Tout dépend bien sûr de l'âge et aussi de la durée de la vie qui est imprévisible. Mais la surprise, c'est que il ne me suffit pas d'explorer qui j'ai été, qui je suis et qui je pourrai être dans les années qui viennent, mais il me reste à méditer qui je serai en un sens nouveau. Ce sens nouveau, Augustin le découvre en lisant saint Jean, dans la première épître de saint Jean. Saint Jean écrit que ce que nous sommes, plutôt ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Et donc cela veut dire que mon âme reste opaque à elle-même, obscure à elle-même. Je ne sais pas pleinement, en vérité, qui j'ai été, qui je suis, ni qui je serai. Mais le principal ici, c'est que je ne sais pas exactement non plus qui je serai enfin. Alors, à quoi renvoie ce futur? Ce futur ne renvoie à aucun futur. Ce futur renvoie à l'éternité. Et là, Augustin découvre un thème important chez saint Paul qui s'appelle l'épectase, qui signifie que notre âme est tout entière tendue, non pas seulement vers le futur, demain ou après-demain, mais tendue vers l'éternité. Et l'ultime révélation, ce sera la révélation qui me révélera moi-même à moi-même et qui me permettra de savoir enfin pleinement qui je suis. Non pas qui je suis seulement à mes yeux ou à tes yeux, mais qui je suis aux yeux de Dieu. Et nous rejoignons la question initiale. Dieu vient en moi, y a-t-il une place pour Dieu en moi? Et qui suis-je pour Dieu et qui est Dieu pour moi? Donc l'histoire de mon âme comporte plusieurs chapitres, mon passé, mon présent et mon futur, mais l'ultime chapitre, c'est mon éternité. L'ultime chapitre, c'est l'épecta, c'est la tension de l'âme qui attend quelque chose qu'elle ne peut pas se donner à elle-même. Ce quelque chose qu'elle ne peut pas se donner à elle-même, c'est la révélation ultime de son qui suis-je, moi qui suis-je. Donc nous resterons toujours en chemin, en méditation, en approfondissement, en surprise, eu égard à nous-mêmes, et c'est seulement Dieu qui pourra nous révéler ultimement, mais cela dans l'éternité, qui nous aurons été et qui nous sommes pour lui. C'est-à-dire donc que Dieu révélera à chacun ce qui il est pour Dieu.